Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Merci pour ces informations. Les prochaines, ce sera pour le journal de 18h. Allons-y.
Salut les amis.
Salut Polyte.
Alors, il paraît que vous avez besoin de moi aujourd'hui. On parle de qui? On parle de quoi?
Alors, Hippo, tu sais qu'on a une très grande confiance en toi.
D'ailleurs, hein. On n'est pas loin de penser que t'es le meilleur chroniqueur de l'émission.
Ouais, ouais. Ah.
Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de te mettre dans les florilèges.
Ouais.
Ah bah, c'est super ça. Je vais vous choisir une chronique.
Non, ça va. C'est gentil, on va s'en occuper.
On l'a choisi ta fameuse chronique sur les films de gauche.
Ah oui, avec Yolande Moreau.
Voilà.
Ah bah, je me souviens, j'avais fait un très bon jeu de mots là, François Yolande.
Ouais, c'est pas la meilleure partie, mais.
Et vraiment, Hippolyte, tu sais, on se demande parfois où tu vas chercher tout ça. Hein.
Ah oui.
Bah... Ça t'étonne?
Eh ben oui, ouais. Parce que ça me rassure en fait, parce que moi aussi, je me demande parfois où je vais chercher tout ça.
Quand même.
Alors en fait, c'est pas. Non, je lis l'actu, je mets le double du Grateful Dead sur une platine et je me déshabille, je me mets nu.
Ah quand même, ouais.
Et,
d'accord.
Et puis je regarde la lune,
on le perd.
Et je lui parle.
Ah oui.
Et d'accord. Le plus dingue, c'est qu'elle me répond, elle dicte la chronique.
Ah ouais, t'as pas oublié une étape à base de plantes séchées.
Et je viens vous livrer cette petite chronique comme ça avec amour. Je suis une sorte de pitié.
Oui. Ah ben c'est sympa de nous donner tes trucs quand même.
De rien, franchement.
Ouais. En tout cas, c'est vraiment bien que tu prennes des vacances.
Oui,
moi,
oui, il faut que tu te reposes.
Voilà, vraiment.
Oui, oui. C'est marrant que vous me disiez ça.
Avant?
Parce qu'on me l'a déjà dit.
Avant, qui c'est?
Bah, la lune.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la Startup Radio, celle qui reste focus sur le process. Voici la présentation PowerPoint de cette réunion consacrée à l'actualité et à la rigolade. Car nous accueillerons d'abord l'humoriste Dedo sur le thème de l'humour quand il est pratiqué par les responsables politiques. Le risque, c'est de crisper le Gaulois réfractaire. Et nous reviendrons sur le succès du festival de metal rock, le Hellfest, dont les 54 000 billets se sont vendus en seulement 2 heures. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera Yolande Moreau à propos de la boutique de l'Elysée qui vend des t-shirts Perlimpinpin et qui est parodiée par une contre-boutique proposant des t-shirts pognon de dingue et les produits de la vente sont reversés à une association qui aide les migrants. On parlera ensuite permaculture, ce qui va nous permettre de faire une visite du potager de Yolande Moreau avec un sketch mémorable relatant le mariage de Michel Houellebecq. Alors Alex, qui sont les premiers témoins de cette émission?
Eh bien, il y aura Djoubaka qui nous parlera de métal algérien. Je ne savais même pas que ça existait. Guillaume Meurice avec un grand classique chaque année. Il va au salon de l'armement et ils sont ravis de le voir arriver. Hippolyte Girardot, c'est poser la question, pourquoi donc faire des films de gauche? Et on terminera par Frédéric Fromet avec ce titre « Les chasseurs sont nos amis ». Enfin ça, c'était avant la chanson.
Et c'est donc Dedo qui ouvre le grand bal de notre open space.
Charline Vanunacker, Alex Vizorek, Par Jupiter.
Dedo avec nous, bienvenue dans Par Jupiter.
Merci.
Dedo, vous proposez un spectacle qui s'appelle Princesse Leia, L-E-Y-A.
Princesse au pluriel.
Princesse au pluriel, de Dedo et Antoine Chomsky.
Tout à fait.
Alex Vizorek, je vous laisse Dedo.
Ils sont très drôles, les deux. Je viendrai sur ce spectacle après, mais je voudrais d'abord vous donner l'occasion de vous défendre, entre guillemets, sur le métal, parce que c'est vrai qu'on vous a charrié pendant la conférence de rédaction, et j'en ai fait mes lancements, et quand on donne votre nom, c'est souvent la première chose qui vient. Et quelque part, votre humour, il est beaucoup plus large que ça. Et aujourd'hui, vous essayez presque de sortir de cette image-là.
C'est mon émission préférée depuis toujours, avec ce qui vient de se passer actuellement. Non, mais c'est vrai, ça fait tellement plaisir. Effectivement, par la force des choses, on est tributaire de l'image qu'on a.
Qui vous a beaucoup aidé au début à être identifié.
Exactement, c'est-à-dire que ça m'a permis, sans que je le veuille d'ailleurs au préalable, de me démarquer du groupe, parce qu'une accroche visuelle fait qu'on est plus facile à repérer parmi la foule d'humoristes qu'on peut avoir.
Le groupe, c'était le Jamel Comedy Club
tout
dans
à
un
fait.
Premier temps.
Exactement, de la troupe originelle, une émission qui date de 2006 maintenant. Mm-hmm. Mais effectivement, du coup, c'est resté quelque part, et c'est presque logique. De toute façon, c'est positif dans le sens où j'ai toujours des retours qui sont très positifs par rapport à cette période et que je ne me cache pas de ça. Et surtout, je n'ai pas joué un personnage. Je suis quelqu'un qui assume complètement ce look, entre guillemets, parce que de par mes goûts musicaux ou par le fait que j'aime un certain type de cinéma un peu plus en particulier, eh ben, c'est cohérent avec ce que je suis. Mais ce n'est pas ce que je cherche à mettre en avant tout le reste. C'est pour ça que j'en ai parlé au départ dans mes premiers passages, que je parlais du métal, du fait de effectivement que j'habite dans le 93 et que ça a pu créer certaines rixes à une certaine époque. Par la force du décalage, mais je parle de tas et de tas d'autres choses ensuite, donc une fois que j'en ai parlé 6 ou 7 minutes, ça me permet de parler comme maintenant de la création du langage à la préhistoire, ou bien de choses un peu plus absurdes dans le côté Monty Python. Moi, ce que j'aime vraiment le plus, c'est l'absurde de l'humour noir, Et donc j'espère pouvoir m'être affranchi de tout ça par le fait d'avoir abordé de très nombreuses thématiques depuis.
Et là, vous avez fait un pas de côté parce que vous êtes sur scène avec Antoine Chomsky, qui lui avait un spectacle sur l'univers carcéral, me semble-t-il.
Ouais, avant. C'est vrai, il en parlait.
Et donc là, comment ça se passe à vous deux et qu'est-ce que vous proposez, spectacle musical?
Alors c'est un spectacle musical en fait, ça s'approcherait dans la forme, ça s'apparenterait à une sorte de comédie musicale en fait, c'est-à-dire que c'est à la fois un vrai concert live où je suis au chant, Antoine Chomsky à la guitare, et on est accompagné d'un batteur et d'une bassiste, mais à côté de ça, on suit l'évolution du groupe, comment il s'est créé, c'est vraiment une sorte de spectacle musical hybride entre le théâtre, la comédie musicale et le vrai concert live. Donc voilà, c'est assez...
Les amateurs de musique vont s'y retrouver.
Et les amateurs d'humour de la même manière.
Petit mot pour terminer sur un autre projet que moi j'adore avec Yacine Bellous. Vous racontez l'histoire du monde par des chaussettes.
Ouais.
C'est un programme court.
On peut voir sur Internet.
Ouais, vous tapez Dedo chaussettes et vous allez voir ça. Et donc là, la première saison est un peu culte pour nous les humoristes. On a trouvé ça très très marrant. Et là, vous êtes en passe de tourner une deuxième. Et il y a genre une cagnotte. Enfin, vous faites appel, pour ne pas avoir de producteur, aux amateurs de la série pour...
Exactement. Voilà, c'est un programme qu'on a créé avec Yacine Bellous, donc qui était aussi un membre du Jamel Comedy Club à l'époque, avec qui on a beaucoup collaboré depuis. On a créé un programme court qui, effectivement, traite sous le prisme d'un petit théâtre de marionnettes, de grandes inventions de l'humanité ou bien de grands faits historiques. Et on a fait 25 épisodes et donc là, pour garder cette certaine liberté dans le ton et dans l'artistique, on a mis en place une cagnotte, effectivement, pour pouvoir à nouveau produire 5 nouveaux épisodes en total autoprod. Donc voilà, allez sur YouTube, tapez l'histoire racontée par des chaussettes, vous verrez un petit peu, ça va de l'invention des Simpsons en passant par Jeanne d'Arc, donc c'est assez large.
Et pourquoi les jardins sont suspendus à Babylone?
Exactement,
qui
la création...
qu'on sait toujours un peu plus.
Effectivement, quand on parle de l'unité de temps de la seconde, comment elle a été créée par les Babyloniens. C'est très bête, hein, ouais. Comme ça, voilà, je tiens à le dire. C'est
pour ça que c'est drôle, malheureusement.
Et c'est Dedo qui est avec nous, et donc le spectacle, concert, comédie musicale s'appelle Princesse, pluriel, Princesse Leia. Et justement, de rock, il va en être question, de rock, de métal, de géopolitique aussi. C'est un petit peu l'alliage de Bernard Guetta et de Metallica.
So welcome. Bah oui, au début des années 90, en fait, l'Algérie sombre vraiment dans une décennie très très noire, puisqu'en 91, le parti islamique remporte les élections aux élections législatives, au premier tour, et le pouvoir invalide ces élections. Les islamistes, eux, prennent les armes et la terreur va durer 10 ans en Algérie. Il y aura quand même 200 000 morts, une vraie guerre civile, hein, celle où on se méfie de son voisin, celle où on ne sait pas quand on va rentrer chez toi, si on va être vivant ou mort. Et donc, il faut imaginer une vie au quotidien qui, en plus des massacres, oblige les gens à vivre sous un couvre-feu, un vrai état d'urgence. Et c'est dans cette atmosphère, en fait, que va naître une sorte de soupape de contestation et de résistance qui va passer par le métal. Et le métal algérien, et c'est un peu l'échevelu contre les barbus. Et le métal résonne vraiment dans toutes les grandes villes d'Algérie. Il est aussi, pour cette jeunesse, un moyen d'échapper à la terreur. Au jour qui passe, se ressemble. Et ce mouvement a vraiment concerné des milliers de jeunes. Ils ont eu accès aux télés parce que c'était une différence culturelle aussi à ce moment-là et c'était important de les montrer. Mais quand la paix revient, en fait, au début des années 2000, les autorités décident de mettre de côté cette scène qui est quand même métalleuse, contestataire. Et on va dire qu'à ce moment-là, ils vont couper absolument tous les fils de diffusion, de distribution. Les salles de répétition sont marquées à la culotte, les salles de concert ferment. Et des disques, n'en parlons pas. Mais en fait, depuis 2015, en fait, cette scène reprend du poil de la bête et les groupes, les fans de métal en Algérie recommencent à s'exprimer. Ils auraient pu choisir le punk, le rap, un mouvement hippie, etc. C'est vraiment le métal qui est le porte-parole aussi de cette jeunesse, quoi. Alors, ils sont absolument confrontés aux mêmes idées débiles hein, qu'on a chez nous, chez les bas du front qui associent le métal à une forme de satanisme. Mais ce discours est en Algérie, c'est celui des salafistes. Et puis, les conservateurs n'aiment pas du tout, en fait, cette jeunesse qui a de toute façon le média du net aujourd'hui pour réagir. Ils organisent ces festivals, en fait, il se passe vraiment beaucoup de choses, quoi. Et un des groupes phares de cette scène, Asile, est de passage en France. Leur dernier album, Aftermath, rend hommage à des figures de l'histoire algérienne, comme par exemple la reine des mers Touareg, Tininan, qui après avoir vécu plusieurs invasions sur son territoire, avait choisi d'emmener son peuple dans le désert, dans le Sahara, au pied d'une montagne du Hoggar, où elle installa son peuple. Et Asile raconte le rôle de cette femme et celle d'une société matriarcale. Donc on doit bien embêter avec ça ceux à qui vous pensez comme moi, quoi. Faith
Merci Chewbacca.
Bah merci à eux quoi, ouais. C'est chouette qu'ils soient en tournée chez nous quoi.
Ils sont en tournée en France, donc rock metal algérien. Et des deux vous connaissez?
Tout à fait, je connaissais et j'ai même eu l'occasion de partager la scène avec eux dans un festival qu'on a fait avec les Princesses Leia, un festival qui s'appelle le Cafest. Et on a donc joué sur la même scène et des mecs très sympas et très très talentueux. Parce que voilà, au-delà de la musique, les thèmes sont revigorants.
Très bien.
J'ai dit revigorant, je suis content.
Merci
beaucoup.
Asil sur France Inter, avez-vous dit, Dedo, vous étiez étonné. Eh bien, c'est grâce à Chewbacca. Merci beaucoup, notre programmateur musical. Et on va aborder avec vous ce premier sujet. L'idée d'une députée en marche de sanctionner la glottophobie, c'était donc une blague. Et nous, comme des cons, on a marché. En revanche, l'amendement qui proposait de faire des soldes sur le glyphosate pour redonner du pouvoir d'achat aux agriculteurs, attention, nous, on a cru que c'était une blague, mais attention, ça n'en était pas une. Donc quand la pensée complexe fait de l'humour, on comprend pas toujours, vraiment on est désolé. Ça arrive.
Oui, non, enfin, je vois très bien ce que vous pensez, n'est-ce pas? Vous trouvez que je n'ai pas d'humour, que je ne sais pas raconter des histoires?
Ah non, pas du tout.
Parce que vous racontez très bien. Franchement, vous m'avez dépassé cette soirée aux dandies avec brio.
Avec qui?
Non, avec personne, avec brio, c'est une expression qu'on emploie, si vous voulez.
Vous voyez, là, c'est l'exemple frappant, quoi. J'ai voulu faire de l'humour, ben, c'est tombé complètement à plat.
Avec brio. C'est très bon, c'est très bon.
Non, c'est trop tard.
Le Père Noël est une ordure. C'est l'Observatoire des médias qui note que l'exécutif pratique une sorte d'humour de bureau qui n'est pas toujours bien perçu par l'entièreté de la population. Il y a des gens qui le perçoivent bien, qui voient que c'est de l'humour, d'autres moins. Et que c'est, enfin voilà, comme ça joue sur les clichés, c'est parfois discutable quand ça vient du pouvoir. Alors, Dedo, déjà, est-ce que l'humeur dans laquelle vous mêlez le pouvoir
déjà peut influencer. Non, déjà, de toute manière. Quoi qu'il arrive, hein, l'humeur, le pouvoir, on n'a pas envie de les mettre ensemble, hein, ces deux phrases. Non, mais je pense que mélanger la politique, l'humour, tout ça, j'aimerais bien que déjà on se concentre sur ce qu'on sache faire, que les politiciens fassent de la politique, que les humoristes fassent de l'humour, et essayons de... J'ai vu qu'il y avait même un... C'est là où je trouve ça un peu problématique. Il y a un prix qui est
de l'humour politique.
De l'humour politique. Mais à un moment, il n'y a pas de prix de cuisine en Formule 1. Arrêtons de tout mélanger. Spécialisons-nous et faisons les choses bien. Et je pense que justement, c'est là-dessus que pose le problème. Essayons de ne pas tout mêler. La politique, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre assez au sérieux. Et l'humour, c'est autre chose. Et quelque part, le mettre en avant dans les deux, je trouve ça étrange.
Vous êtes plutôt Juppé, du coup?
Je suis totalement apolitique par rapport à ce qui vient de se passer.
C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on en vient à dire il y a une idée d'amendement, et puis quand le député ou la députée se rend compte que c'est une connerie...
Est-ce qu'on est su... Oui, c'est ça. Ouais.
Non, mais c'était une blague.
Voilà, ouais.
C'était une blague.
Du coup, on peut tout désamorcer très facilement. Quoi. Non, mais non, je voulais rire. Bah, oui, trop
alors,
tard,
François Hollande, il était surnommé Monsieur Petite Blague. Il faisait énormément d'humour. Est-ce que ça passait mieux Alors, excepté peut-être les 100 dents, où ça s'est pas très très bien passé.
C'est là qu'il l'a fait officiellement.
C'est pas lui.
Ben non, c'est dans le livre de Valérie.
C'est dans le livre de
Valérie.
On n'est pas sûr qu'il l'ait vraiment dit.
C'est une blague de bureau.
En revanche, dans les discours, les petites piques, les Gaulois réfractaires, ou lorsque Emmanuel Macron était en visite au Burkina Faso et que le président est allé réparer la clim, vous rappelez tout ça, ou les Kwassa, etc. Est-ce qu'il y a une différence dans la manière dont on reçoit l'humour ou dont l'humour est pratiqué par un François Hollande ou par un Emmanuel Macron?
Non, je pense pas. Je pense qu'avant tout, c'est en fait l'humour. C'est pas le problème. C'est ça devient un outil de communication que c'est problématique. Je pense que si c'est un axe pour se faire bien aimer de son auditoire, tout en occultant du coup un programme, ça, là du coup, il faut pas passer par là. Donc avoir de l'humour, c'est pas le problème. C'est mettre ça en avant pour essayer quelque part de soi-même se mettre en avant qui me dérange moi.
Les politiques cherchent que font les stand-uppers, cherchent la punchline.
Ouais, cherchent la punchline parce que c'est ce qu'on retient au final dans un discours, alors que du coup, ça nous permet d'éviter de parler des vrais sujets qu'on devrait aborder.
Aux États-Unis, il y a quelque chose de très connu qui est
La statue de la liberté.
Alors, aussi, le président américain.
C'est un très beau monument.
Ouais, bonne réponse. Ouais. Le président américain chaque année fait un discours face à la presse étrangère qui ressemble fort à un stand-up. Obama était très très fort.
Bien sûr.
Il avait même des auteurs qui étaient les stand-uppers américains.
Exactement. Et donc, où se trouve la frontière? Est-ce que ça, on trouve drôle si c'est un exercice imposé?
Si c'est un exercice imposé, c'est-à-dire que si jamais c'est, par exemple, en fin de mandat, la plupart du temps, les présidents font justement une sorte de discours qui permet de clôturer un bilan ou de parler un petit peu de ce qui a pu se passer. Si c'est là-dessus qu'on fait des traits d'humour, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est surtout quand c'est en pleine campagne et quand c'est pendant le mandat que c'est qu'on s'en sert comme un gros nuage de fumée, que là, ça devient quelque chose de trop, ça devient une arme un peu trop facile, à mon avis.
Dedo est avec nous, Princesse Leia, c'est son spectacle avec Antoine Chomsky. Et c'est pas tous les jours qu'on a un mélomane métal avec nous, donc on va quand même en profiter. Car on a appris aujourd'hui que le Hellfest a déjà vendu ses 54 000 billets en à peine 2 heures. L'édition 2019 du festival est déjà complète. Le pass 3 jours est tout de même à 209 €.
Je peux t'avoir des places, Alex, t'inquiète.
Parce qu'il y a des places au marché noir à plus de 300 maintenant. Parce que tout est vendu. Sinon, le pass 3 jours, c'est quand même 209 €. Et il y a des milliers de gens qui n'en ont pas eu de ces places et qui sont très énervés. Alors, au Hellfest, c'est là qu'on retrouve les vrais métalleux. Alors, à quoi on reconnaît un vrai métalleux? Démonstration.
C'est quoi pour toi l'album rock de référence?
CDC.
D'accord, ouais, mais l'album.
Tous.
J'imagine qu'il y en a bien un qui te secoue un peu plus que les autres quand même, en particulier.
Oui.
Lequel?
Greatest Hits.
Pardon?
Greatest Hits.
Une compil d'ACDC quoi.
Non, l'album. L'album Greatest Hits. T'aimes pas Greatest Hits?
Oh, si.
C'est Thomas VDB avec vous, oui. Avec vous Dedo. Et ça, c'est vraiment un sketch qui nous fait hurler de rire depuis 2 ans.
On le regarde régulièrement dans le
monde. Ouais, on le regarde quand on a un petit coup de mou, on se fait Dedo VDB. Vous pourriez nous le refaire, l'album préféré, c'est...
Ouais, c'est Greatest Hits.
Du coup, on n'a pas la vraie réponse. Votre album favori, c'est...
D'ACDC, il n'y en a pas vraiment. J'ai envie de rester sur Greatest Test. Ça reste une signature désormais.
Alors on va continuer à voir si on a affaire à un vrai métalleux ou pas. C'est vrai que vous blaguez parfois, on l'a entendu dans le sketch de début d'émission.
Que c'est tiré d'une série fictionnelle qui s'appelle Inside Jamel Comedy Club et que je suis pas une arnaque en vrai.
Mais c'est dit n'importe quoi, il n'est pas crédible une seule seconde. J'ai une voix étrange quand je le dis.
On a entendu dans un extrait de votre spectacle, dans le sketch au début d'émission, quand vous demandez dans la salle est-ce qu'il y a des métalleux, il y a plein de gens qui disent on est 4 comme d'habitude. Et là, il y a quand même 54 000 places qui se sont vendues en 2 heures. L'année dernière, ils avaient mis 3 jours pour les écouler. Nous qui sommes novices, voire je dirais béotiens en la matière, comment expliquer que on croit toujours que les métalleux, c'est un petit peu plus... Il y en a moins que les autres, etc. Là,
c'est pas un truc de niche. Dans ta gueule, les enfoirés, on peut le dire très fort. Hein. Non, c'est juste que, effectivement, le Hellfest, en plus, est un festival qui est un des meilleurs festivals métal d'Europe. Donc devant le grass pop au fur et à mesure. Donc forcément, la programmation, maintenant, c'est la 12e ou 13e édition, je crois. Je suis plus exactement sûr, mais c'est très... voilà, on a dépassé les 10. Et c'est vraiment un festival qui attire énormément de gens, qu'on aime le métal ou qu'on aime juste déjà le fait d'être dans un lieu qui est agréable. Parce que le site du Hellfest est vraiment pensé pour qu'on passe 3 jours dans une sorte de petit Disneyland du métal. Et je le dis de manière tout à fait positive.
Ouais. Bah ouais, parce que les conditions sont excellentes.
Bah, ils sont vraiment pris la tête à faire...
À Clisson,
tout près de Nantes. Un décorum vraiment aux couleurs du métal. Il y a une statue de Lemmy... immense, parce que le chanteur de Motorhead a disparu il y a quelques années maintenant.
Faut aimer la bière aussi.
Si on n'aime pas la bière, on peut avoir d'autres boissons, mais c'est vrai que ce serait dommage de se passer de ce qui se passe en termes de liquide là-bas.
Et voilà comment ce festival arrive à tirer son épingle de jeu là, dans un moment où les festivals ont parfois du mal à remplir complètement.
Ouais.
Dedo, il y a une corde à votre arc, évidemment. Vous êtes humoriste, vous faites de la scène, vous jouez.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Vous connaissez l'émission, vous l'adorez.
Oui.
Mais ici, évidemment, j'ai des accessoires. Guillaume, hop. Un accessoire, Dedo, un accessoire.
Ah, super.
Parce
que chaussettes de Charline.
C'est des chaussettes. Elles sont propres. Attention.
D'accord.
Alors, c'est des chaussettes parce que vous avez donc raconté l'histoire avec des chaussettes et on peut le retrouver sur Internet. On en a parlé. Je vous donne le texte de ce sketch. Aujourd'hui, c'est l'histoire de notre ami Tron, qui
Georges.
Est.
Georges. Oui,
j'allais
Georges
dire
Tron.
Évidemment, Georges,
Georges
Tron.
Tron. Georges Tron.
On se lance. Les deux chaussettes vont nous expliquer.
L'histoire des chaussettes, c'est très marrant.
Eh oh, pied gauche.
Oui, pied droit.
L'épisode de soir parlera de l'affaire Georges Tron.
Et c'est très marrant parce qu'on est des chaussettes, le dernier obstacle de Georges Tron.
Parce que Georges Tron, il aime beaucoup les pieds.
Et autant vous dire que le mystère des bébés naissant bras...
Il s'en fout complètement.
Que risque Georges Tron à l'issue de son procès?
Une mise à pied.
Effectivement, c'est très marrant.
Oui, sauf pour les plaignantes quand même.
Qui se sont manifestés avec le hashtag balance ton pied de porc.
Ça a d'abord commencé par les pieds.
Ah, la plaignante. Mais vous n'avez pas de chaussettes?
Ben non. Parce que c'est même ça qui l'a excité, je dirais.
Je vois, continuez. Il vous a parlé de réflexologie plantaire?
Plantaire, mon cul, oui.
Je crois que c'est bien résumé.
Vous êtes sûr? Georges Tron était quand même secrétaire d'État dans le gouvernement Fillon.
A raison de plus pour qu'il soit suspect.
Ouais, ça ne m'étonnerait même pas d'apprendre que Pénélope est impliquée.
Oh, c'est impensable. Rappelez-vous, Georges Tron a même été baladurien.
Et voilà, quand c'est pas les pieds...
C'est le double menton.
Oh, est-ce que vous avez un massage à faire passer?
Au secours!
Ah, calmez-vous, il voulait dire un message.
Ah, mais quand je pense qu'à la mairie, pendant qu'il était maire, j'étais la cheville ouvrière...
Et on en revient toujours aux pieds.
Ah, c'est à se demander pourquoi Georges Tron n'est pas en marche.
Ah, l'accusé se dit victime d'un complot ourdi par le Front National.
Ah bah, ça lui fait une belle jambe.
Et vous, ça va?
Disons que je cherche toujours chaussures à mon pied.
Ah, je crois qu'Oscar Pistorius est célibataire.
Bref, voilà une affaire difficile à appréhender au pied levé.
Ah, tout ce qu'on peut dire pour le moment à propos de Georges Tron...
C'est que coupable ou innocent...
Ça lui fera les pieds.
Merci Dedo, il est charmant. Ça m'est à lui d'avoir des longs cheveux, mais écoutez, il est charmant, il est très poli. Lui aussi, c'est Guillaume Meurice.
C'est vrai, et je vais vous parler guerre aujourd'hui.
Oh là là.
Ouais.
Ah non,
je suis un peu payé pour mettre l'ambiance. Vous vous souvenez quand la France, elle se félicitait des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite?
Mm-hmm. Oui, on
ça y est, elles ont été livrées, mais au Yémen par contre, et dans la gueule des civils. Elles sont efficaces, hein, ça défouraille de partout, il y a des morts en pagaille. On vend pas de la merde, au moins, faut reconnaître ça. Fabrication française, pour une fois qu'on fait un truc qui marche, je dis cocorico. D'ailleurs, j'ai bien pu le constater au salon de l'armement où je suis retourné, on va dire, pour être tout à fait précis, parce qu'à force d'y aller, ils vont me filer une carte de fidélité, je pense. Je peux même gratter des réductions sur les lance-roquettes, je les revendrai à France Info pour la prochaine fois qu'ils couvrent un meeting de la France Insoumise. D'ailleurs, niveau haine des journalistes, l'Arabie Saoudite, ils sont quelques crans au-dessus, ils ont démembré un mec dans une ambassade. Répond à ça Alexis Corbière, à côté, c'était quand même un bisounours sous l'exomile, mon pote. Alors, allons voir les pros de la gâchette et de la bombe à fragmentation.
Je suis un habitué, c'est un plaisir d'être là.
Qu'est-ce qui vous plaît, tiens, dans cet univers-là?
D'abord, l'ambiance générale. Il y a une ambiance extrêmement vivante, extrêmement sympathique.
Alors, extrêmement vivante, on vend quand même des fusils, des canons.
Non, c'est pas anxiogène.
C'est marrant, il en parle comme de Disneyland, vraiment.
Ouais, il est content, il est content.
Il est bien, quoi.
Alors, c'est pas le salon de la méditation non plus, hein. Attention quand même, s'ils vous disent que vous allez prendre un pruneau, c'est pas pour la digestion, faites gaffe. Mais c'est vrai qu'à côté des fusils automitrailleurs, ils mettent toujours une hôtesse en mini-jupe. Voilà, ça crée une ambiance assez détente, assez cosy.
Bien.
Allez-y en famille, je dirais, ça vous changera de Center Park. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on a raison de se féliciter de leur vendre des armes?
Je pense pas qu'il faille se poser la question comme ça. Si vous...
Alors posons-nous la question autrement.
Non mais toute façon, les armes, c'est pas fait pour. Les armes, c'est fait pour se défendre. Bon.
Là, en l'occurrence, c'est attaquer plutôt.
Oui.
Oui, alors c'est ça qui est important comme précision, parce qu'on parle toujours de la défense. Mais s'il n'y a personne pour attaquer, c'est quand même chiant. Hein, on peut au moins reconnaître à l'Arabie Saoudite qu'elle attaque. Voilà. Et puis, c'est pas du Olivier Giroud. Hein. C'est cadré, attention. Ah. C'est bien de leur faire des passes décisives en leur vendant des armes. Même si, dans le cas de la guerre, on n'est pas certain que ça ne nous revienne pas dans la gueule, hein, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Mais on est rassuré ou pas quand même?
Enfin, je vois pas quoi vous faites allusion. Il y a aucun pays aujourd'hui. Je ne vois aucun cas auquel j'ai présent à l'esprit dans lequel qui pourrait être un exemple de ce que vous dites. Donc je vois pas. Non, je pense pas. Non,
bah pour un gars rassuré, il est pas au max de l'apaisement, hein, je trouve. J'avais pas vu un mec aussi rassuré depuis Pascal Praud devant un tagine. Alors moi, je vous rassure. Hein, tout le monde ce matin œuvrait pour la paix et le bonheur universel. Hein. Y a-t-il un danger, madame?
Non, à aujourd'hui, non. Il y a pas. Nous, on est vraiment aussi bien positionnés en France, et bien sûr après de proposer nos services à l'international.
Mais est-ce que ça pose pas problème de vendre des armes à l'Arabie Saoudite?
Nous, notre volonté après, c'est de pouvoir répondre aussi aux demandes de nos clients, quels qu'ils soient. Après. Vous me prenez au pied levé, là.
Oui, c'était un petit peu au pied levé. Mais je me disais, comme les gamins au Yémen, ils n'ont plus de pied du tout, bah, c'était un petit peu légitime de poser des questions. Mais on a l'impression, vraiment, sur ce genre de salon, que personne n'est responsable.
Nous, on ne fait que suivre, industriellement, on ne fait que suivre les directives qui peuvent être données par les ministères français. Donc, après, c'est une opinion très personnelle de savoir...
Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est votre opinion personnelle.
Mais j'ai pas exprimé mon avis personnel sur mon stand. Après, on va aller se balader dans le couloir, je vais trafiquer ma voix et je dirai ce que j'ai envie de dire.
Ah bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais je vous rappelle qu'en anatomie humaine, le cœur est souvent placé sous le portefeuille et que les plus grands terroristes de l'histoire ne sont pas forcément les plus méchants d'apparence. Il paraît que Ben Laden était très très sympa. George Bush.
Il écoutait Enrico Macias.
Évidemment, bah voilà, comment on peut en vouloir à un homme comme ça? George Bush, c'était un amour. Nordal Lelandais, hein, il paraît qu'il achète le DVD du concert des Restos du Cœur tous les ans. Donc je dirais, méfions-nous des apparences quand même. Même s'il y en a, à l'inverse, qui assument totalement de bosser dans le secteur.
Ah non, moi, ça ne me pose absolument pas de problème. Hein.
C'est vrai?
Ben non. Parce qu'il faut arrêter de penser qu'on peut faire la guerre de façon propre, chirurgicale, sans que ça blesse. La guerre, il faut pas la faire. Et pour pas la faire, il faut qu'elle soit horrible. Sinon, on sera en guerre tout le temps.
C'est une théorie. Voilà. Ah, elle est pas mal, cette théorie,
c'est
non?
C'est une théorie.
Guerre, il faut qu'elle soit horrible pour qu'on n'ait plus envie de la faire. Et c'est une théorie qui a bien marché.
Ouais,
c'est vrai, la Première Guerre mondiale, horrible. Après, on n'avait plus trop envie de la faire, la guerre. On était un peu barbouillés. Hein. Il n'y a quasiment plus eu de guerre du tout après. Hein. Alors, je dis quasiment, parce qu'il y en a eu quand même deux, trois. Bah, notamment, voilà, celle du Yémen en ce moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que la dissuasion, il vaut mieux se demander pourquoi elle a échoué.
Parce que les guerres d'avant n'ont pas été assez horribles, peut-être.
Eh ben, peut-être pas là-bas.
Est-ce que c'est pas hyper paradoxal, surtout?
Et qu'est-ce qui n'est pas paradoxal dans l'être humain?
Oh, c'est beau, un petit peu de philosophie pour terminer. Et c'est vrai que le paradoxe reste entier, c'est toujours les mêmes qui, pour gagner leur vie, envoient les autres à la mort.
Musique hypnotique, elle t'est trop chaude. Un princess mexicaine, au sourire de Mona Lisa. Je te respire et tu m'inspires. Sous les étoiles, chez la salle. Jolie sorcière, tu nous tirais les cartes. Le fou, la lune et l'amoureux. Le destin était si audacieux. Sous les étoiles, amour et hal. La luce de tes cuerpos était si belle. La luce de tes corazones aussi. Je n'ai pas voulu te voir mourir sous les étoiles à Montréal. Une nuit d'hiver par la fenêtre ouverte. ouverte. S'envole un souffle audacieux de la ville blanche et mystique.
C'est Arthur H. qui nous a emmenés sous les étoiles de Montréal et sous celle de la France. Et de la Belgique un peu, on
ouais,
retrouve.
S'il vous plaît.
Yolande Moreau.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Bienvenue Yolande Moreau.
Merci.
On est tout joyeuse de vous accueillir.
Ça, c'est vrai.
Et surtout pour ce film qu'on a adoré, qui s'appelle I Feel Good, de Gustave Kervernes et Benoît Delépine, où votre personnage gère un village Emmaüs, qui existe d'ailleurs, c'est le véritable village Emmaüs de Pau. Et votre frère débarque, échappé de Thalasso, parce qu'il débarque en peignoir. Et là, il y a deux visions de la société qui vont cohabiter, la vôtre et la sienne. Lui rêve de devenir Bernard Tapie, de gagner plein de blé en faisant travailler les autres, avec juste une idée qu'il n'a pas encore, mais il va trouver.
Il ne manque plus que ça.
Voilà un peu l'idée. Est-ce que ça a été naturel pour vous d'aller jouer dans ce village Emmaüs, parce que vous avez incarné pas mal de rôles sociaux, donc ça paraît assez simple et assez naturel à l'écran que vous incrustiez dans ce décor. Est-ce que ça a été si simple qu'il n'y paraît à l'écran ?
En vrai, ouais. Ouais, parce que déjà, il y a une manière très simple d'aborder les choses avec de l'épine et Kervernes. Ouais. Donc arriver là-bas, dans cet univers là-bas, il débarque pas avec des gros camions et plein d'éclairages. Donc, il faut savoir, c'est l'Emmaüs le plus grand de France, avec un mec qui tient ça, qui est génial, c'est Germain. Et ce village est étonnant parce qu'en plus de recycler, etc., ils ont un potager, ils font leur miel, font du boudin, ils font plein de choses. Et les gens qui arrivent, qui ont parfois eu des parcours assez difficiles, peuvent vraiment se reconstruire, peuvent avoir leur petite maison qui reconstruit, c'est étonnant. Mmh. Donc nous, on s'est fondu là-dedans, il fonctionne un peu d'une manière à l'artisanat, et de l'épine Kervernes aussi. Mmh. Et avec ce qu'ils vont raconter, je trouve que le lieu est carrément un des personnages clés enfin de ce film.
Et les gens qui sont dans le lieu, il y a des gueules fantastiques.
Ah ouais,
il y a des acteurs. Oui.
Et l'architecture aussi est formidable, faut le voir.
C'est ce qu'on appelle une utopie concrète, c'est-à-dire que c'est une société qui vit, qui est utopique, parce qu'il y a l'entraide, tout est recyclé, etc. On vit avec ce qu'on a, et ça fonctionne.
Ça fonctionne, il faudrait pas mal d'années.
Et oui. Il faudrait pas que les gens du jardin, avec ses idées de Bernard Tapie, viennent foutre le bazar dans tout ça. C'est un peu ça l'idée.
Ouais.
je pense que là, il y a eu une projection au village Emmaüs, devant tous les acteurs qui ont tourné, les figurants, etc. Vous y étiez à cette projection ?
Oui, oui. Ah, c'était dingue.
Comment c'était ce moment-là, alors ?
C'était dingue parce qu'ils étaient tellement heureux aussi de ce retour, qu'on vienne. Alors, ils avaient fait, dans un endroit où on a tourné, ils ont mis, je crois qu'il y avait quelque chose comme 500 chaises, encore avec le prix.
Ah oui ?
Il y en avait même avec des fauteuils. Moi, je me suis démerdée, j'ai pris un fauteuil.
Oui, c'est le matos du village Emmaüs qui a été disposé.
Alors,
c'est
on a eu malheureusement un écran qui était un écran gonflable, je crois, un grand.
C'est très drôle,
mais
ça.
À un moment donné, ils ont dû, pour mettre l'infrastructure pour le groupe, donc Moussé Hakim qui faisait un concert après.
Oui, de groupe Zelda.
Ils ont dû abaisser l'écran. Et il y a une petite fille qui l'a pris pour un truc pour sauter, là.
Un trampoline.
Un trampoline. Et donc l'écran était un peu ce qui là-bas, bon, comme on dit chez nous,
en Belgique. Oui, c'était de travers.
Le film était tellement bien. Moi, j'ai voulu assister à cette projection-là, avec l'écran qui était un peu Skive Lavabo. Il y avait une telle ambiance dans la salle, c'était formidable.
Oh, c'est bon, ça fait tellement longtemps que j'ai plus entendu cette expression.
Ils font la musique du film, faut
bien
le dire.
Bien sûr,
aussi,
oui, bien sûr, de Zebda. Donc, il y a évidemment Yolande Moreau, Jean Dujardin, il y a Jodahan, Lou Castel, Jean-Benoît Hugues, Jean-François Landon, Jana Bitnerova. Xavier Mathieu, Elsa Foucault et Marius Bertram. On les cite tous, ils sont fabuleux. I Feel Good, on aime tellement. On va aborder avec vous ce premier sujet. La boutique de l'Élysée fait l'objet d'une parodie, une contre-boutique baptisée
enlisez.fr et qui vend des objets très dérivés, tels que des t-shirts floqués « qu'ils viennent me chercher » ou des mugs « je traverse la rue » pour trouver du boulot. C'est la boutique du ruissellement, c'est comme ça qu'elle est baptisée, créée par des gens du Nord au profit d'associations qui viennent en aide aux réfugiés.
Hasta siempre. Avec le t-shirt du Che. Hasta siempre. Avec la casquette du Che. Hasta siempre. Avec le poster du Che. Hasta siempre.
Il y a aussi la couette du Che, les chaussettes du Che, ça marche pareil. C'est les Fatal Picard et leur chanson Hasta XXL. Alors, la France, là, on dirait, est divisée en deux. Parce qu'il y a ceux qui achètent à la boutique de l'Élysée pour sauver le patrimoine. Pour sauver le patrimoine, on achète des t-shirts à 55 euros. Et ceux qui achètent à la boutique enlisez.fr pour sauver les réfugiés. Et là, je me dis, Yolande Moreau, est-ce qu'il n'y a pas là une métaphore du film I Feel Good de Gustave Kervern et Benoît Delépine? En ce sens où votre personnage qui gère le village Emmaüs, ce serait la boutique enlisez.fr. Et Jean Dujardin, c'est la boutique de l'Élysée avec ses goodies et son bracelet égalité à 250 euros, rappelons-le, on ne s'en lasse pas.
Est-ce que, c'est bien vu, je trouve. C'est bien vu, le sujet. Oui. Ah, c'est vraiment ça, c'est la confrontation de deux visions du monde. Et puis, voilà, moi, je trouve ça bien vu du point de vue de Delépine et Kervern, parce que c'est... parce que des fois, avec ce qui nous tombe dessus, avec le désenchantement de la gauche et là, on se demande s'il n'y a pas une troisième voie qui est possible. Mmh. Et ce film nous parle de tout ça avec beaucoup de petites strates différentes. Il nous parle d'écologie, de circuits courts, de décroissance quelque part.
Même de la robotisation. Il y a plein de.
Oui, il y a plein de choses.
Plein de choses, effectivement. Sinon, ce côté arroseur arrosé, c'est-à-dire s'emparer de la chose, parce que il y a une propagande de l'Élysée. Et de retourner la propagande. Ah
ben c'est génial, c'est vraiment génial d'avoir fait ça.
Moi j'ai une question belgo-belge. On a tous eu des boîtes de biscuits avec le roi.
J'en ai plein moi.
Ah ben voilà.
Moi aussi, j'ai pas les siennes.
Alors ça se fout de ma gueule.
J'en ai plein.
Il part derrière.
J'ai Léopold, j'ai tous. Baudouin, Fabiola.
Donc c'est une dérive monarchique.
Je les ai. C'est mes pommes séchées dedans.
Cette boutique, c'est une dérive monarchique un peu.
Bah, ça pourrait l'être. En tout cas, moi, je trouve ça tellement ludique comme idée. Puis ça détourne. C'est ça qu'on demande. On demande de. Ce que j'aime bien avec le. Je reviens avec Delépine.
Bah, allez-y, bien sûr.
On rit avec des choses que c'est un film rageur et on rit. Mmh. Là, une boutique comme ça, pour moi aussi, il y a de la rage derrière et puis c'est drôle. Je voudrais bien un service, moi.
Hippolyte Girardot.
Allez, j'y vais. I feel good. Ah, Yolande Moreau, hein. C'est pas avec un titre américain que vous allez nous embobiner. On vous a reconnu. On sait que vous faites des films de gauche. Et toujours des films qui ont du sens civique et politique et philosophique, voire, par-dessus tout ça, bien sûr, poétique. Des films qui majoritairement insistent sur la solidarité, la fraternité, l'égalité. Des films qui donnent une image puissante, radieuse des femmes, qui nous laissent penser que le lendemain chantera plus fort que les aboiements d'aujourd'hui. Des films qui sont des manifestations en soi, bien plus crédibles que certaines pétitions, dont je ne parlerai pas ici. Des films, bref, qui veulent changer notre regard sur le monde. Bref. Évidemment, des films de gauche dans un monde de plus en plus à droite. Et c'est pas la peine de se déguiser pour nous faire croire le contraire, hein. On reconnaît la chanson. Eh ouais, la ruse est grossière. Titre américain, affiche hideuse avec un gros lard en peignoir blanc et slogan bien MEDEF. Il n'y a pas de grand pays sans grand patron. Ah, je me suis dit, tiens, enfin un film de droite. Et avec qui? Yolande Moreau. Bah dis donc, le monde change. Si Mademoiselle Moreau fait des films de droite, alors Macron, président à vie, évidemment. Je vais voir le film, patatras. Déception, amertume. Sans surprise, vous êtes apparu au milieu de ce village Emmaüs avec votre pull acrylique, votre jogging acrimonique, des crocs en plastique aux pieds, cheveux en bataille de paille et discours révolutionnaire en bouche. Je me suis dit, ils m'ont bien niqué encore une fois. Voilà un film de gauche, allez, malin. Et moi qui y croyais quand même.
Ah.
Ah, Yolande Moreau, le pire, c'est pas d'être de gauche, non. Le pire, c'est de continuer à l'être. Et vos complices, la Kerven et de l'Épine, les Lagarde et Micha de l'exception culturelle française, ils ont quand même une tendance très naturelle vers le pire. Moi, je me souviens de Mammouth avec Depardieu, période pré-Kim Jong-un, qui parcourait la France en moto pour retrouver ses anciens patrons qui avaient oublié de le déclarer. La métaphore était grossière, mais on voyait bien l'allusion à l'époque au cadeau de Sarkozy au patronat qui avait baissé, à ce moment-là, les cotisations patronales. N'oublions pas Le Grand Soir, qui racontait l'histoire de deux frères Dupontel en commercial en dépression, et Poulvord en punk à chien en punk à chien, qui apprenait que leur père n'était pas leur vrai père et décidait de le chercher. N'était-ce pas alors l'allégorie de ce peuple de gauche, cherchant éperdument la gauche dans le quinquennat Hollande, hein? Et aujourd'hui, ce I feel good avec Jean Dujardin, et vous bien évidemment, en loser qui veut devenir winner en rendant les gens beaux. La beauté entraînant par contamination, voire ruissellement, évidemment, le bonheur. Ce n'est pas le titre américain qui nous empêchera de penser qu'il s'agit là de l'hypotypose percutante de la théorie du ruissellement d'Emmanuel Ier. Encore une fois, voilà, les Sodome et Gomorre des intermittents du spectacle n'ont pas hésité à faire à nouveau un film de gauche. Avec votre complicité active et récurrente, hein, votre participation étant le dénominateur commun à toutes ces œuvres, faut bien le dire. Alors, I feel good, d'accord, d'accord. Mais je vous le demande, Yolande Moreau, vous en avez pas marre de faire des films de gauche? Mais à quoi que ça sert? Remarquez, en même temps, cette opiniâtreté vous honore. Voilà, parce que avec votre ténacité, on finirait pas à croire que ça peut marcher, la gauche. D'ailleurs, je pense que notre précédent chef d'État aurait mieux fait et mieux réussi s'il s'était fait appeler François Yolande. Voilà. Et même mieux, François Yolande Moreau. Et beaucoup mieux encore s'il avait été une femme. Voilà, mais comme on le disait, à la fin d'un vrai film américain, pour le coup.
I'm a man. Well, nobody's perfect.
Hippolyte Girardot, merci pour cette chronique.
Et pourtant, je cherche un rôle d'une vraie salope.
Le message est lancé. Le message est lancé.
Et la question, vous n'en avez pas marre des films de gauche?
Ça dépend ce qu'il y a, comment ils sont faits. Je réponds sérieusement. Là, moi, j'aime bien. J'aime bien quand un film raconte quelque chose, mais je suis une femme de luxe, j'aime un peu de tout. Je dis, une vraie salope, ça me plairait bien, moi.
Bon, Yolande Moreau, on va continuer à faire des films de gauche. Alors bon, on va aborder ce deuxième sujet avec vous, Yolande. La permaculture à l'école. Car l'idée a germé en Belgique et elle est désormais appliquée dans une vingtaine d'écoles au sein d'une même commune qui a décidé d'en faire une activité scolaire. Les enfants apprennent ainsi la patience, le rôle des insectes et le partage.
Malgré les efforts de l'éducation nationale, certains parents préfèrent se tourner vers des méthodes alternatives.
Voilà, c'est ça. Mange de l'herbe, c'est très bien.
C'est super, c'est très bon, c'est pour bon. L'éducation, ça, manger de l'herbe.
Nous sommes allés à la rencontre de Corentin et Lucas, qui viennent d'ouvrir leur école à enseignement aménagé.
Disons que le système scolaire est vraiment imposé aux enfants dans un but de résultat. On n'est pas du tout sur l'humain. Or ici, dans cette école, c'est 100% naturel, 100% voilà. Instinctif.
Oh non, il y a encore un chat qui a chié.
Oh non, ils font chier ces chats, ils arrêtent pas de chier là. Mais qu'est-ce qu'on leur donne à becter, Mimounette?
C'est le palmacho. Ça se passe à Flémal, en Wallonie, et les produits du potager et de la permaculture sont distribués aux associations aussi pour les plus démunis. Alors on a choisi ce sujet, Yolande Moreau, parce que ce week-end, en rentrant en Belgique, je lis Le Soir, il y a une grande interview de vous, et l'entretien commence comme ça. La journaliste écrit « Entre la cueillette des pommes, les prunes à ramasser, les tomates à sécher, les compotes et les confitures à faire ainsi que les semis de l'hiver à préparer, Yolande Moreau a un début de rentrée très chargé.
Mais quelle image on donne de vous chez nous?
Bah dis donc, je pratique aussi un peu mon métier.
Donc on s'est dit que vous étiez calé là-dedans. Première question, le potager et la permaculture, ce qui est quand même particulier, ça a autant sa place à l'école que le théâtre, la chorale, ça apporte beaucoup de choses.
Plus on apprendra aux enfants jeunes à respecter la terre. On n'est que de passage, donc il y a un respect à avoir. Puis la permaculture, c'est absolument passionnant. Une fois qu'on fout son nez là-dedans, on voit l'immensité des choses qu'on ne connaît pas. C'est comme dans le cinéma, je trouve. C'est-à-dire... Et c'est sans fin. Et ouais. C'est absolument fascinant.
Vous avez appris comment dans les bouquins?
Mais moi, avant, j'avais toujours eu un potager, mes méthodes classiques, bêchage, machin, belle rangée, des trucs. Et puis, à un moment donné, je deviens plus âgée, je trouve que la terre est trop basse, et donc je vais arrêter. Et là, je tombe sur le premier bouquin, c'était jardiner sans bêchage, sans arrosage, enfin, sans rien
foutre, jardiner pour les feignasses.
C'est bien pour moi. Et donc, de fil en aiguille, voilà, je m'y suis intéressée.
Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple chez vous, dans votre jardin, votre potager, la permaculture, c'est quand on utilise toutes les choses naturelles et que...
Le principe aussi, enfin c'est un des principes, parce qu'il y en a beaucoup, c'est que les animaux travaillent à votre place et de respecter la terre. Mm-hmm. Et donc, on couvre, par exemple, tout le temps la terre pour donner à manger aux vers de terre, aux cloportes, qui eux, et alors on obtient une belle terre friable. On fait des buts. Moi, je travaille assise pour épargner mon dos. Et donc, j'ai des buts dans lesquels sont enterrés du bois mort. Mmh. Mais la permaculture, il y a plein de manières de la faire. C'est basé sur l'observation. Alors, ça déteint philosophiquement.
Oui.
Un petit peu.
Vous dites, ça remet les pendules à l'heure. Vous dites, ça veut dire quoi?
Mais déjà, le fait de la campagne, moi, j'aime bien, c'est vivre plus avec les saisons, on est plus en contact avec l'extérieur et.
Parce que dans le cinéma, qui paraît tellement loin de tout ça, vous risquez de perdre pied.
C'est une femme de luxe.
C'est vrai, quand on pense femme de luxe, il y a Elizabeth Taylor et vous. C'est vraiment les deux qui
Donc la permaculture à l'école, bonne idée.
Ah ouais?
Génial, c'est magnifique.
Ouais, c'est chouette. Super. Mais alors, on fait quoi, la chorale ou la permaculture à l'école? Qu'est-ce qu'on choisit?
Bah, on peut faire les deux, je pense. Ouais, c'est ça.
On peut faire la permaculture en chantant.
Ouais,
exactement.
Jean-Michel Blanquer fait la permaculture des tomates et vers des semis
de terre
pour l'hiver.
C'est Jean-Michel
Jardin.
C'est magnifique cette chorale.
C'est une chorale extraordinaire. Sur France Inter, il est 16h47.
Yolande Moreau, vous seriez d'accord de jouer avec nous?
À la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité. Je vous donne un rôle qui va vous plaire.
Oui,
je pense que ça va vous plaire ce rôle. Parce que Michel Houellebecq s'est marié. C'est Carla Bruni qui a tweeté une photo du couple Houellebecq. Vous êtes Madame Houellebecq, Guillaume Meurice et Michel Houellebecq. Et Stéphane Bern a préparé une émission saga sur ce magnifique moment.
Bonjour et bienvenue dans Saga. Nous allons rêver ensemble en vivant de l'intérieur le mariage le plus glamour de cette année 2018. Michel Houellebecq a épousé Lysis. Et je vous propose de découvrir cette belle histoire en commençant par la demande en mariage.
Oui, Michel, tu veux me dire quelque chose?
Lysis, t'as pas une cigarette?
Ah ben non, je ne fume pas, Michel.
Ah ouais, tu fumes pas.
Michel. Michel, tu t'es endormi là, je crois.
Ouais, je vais te demander, enfin, si. Enfin, c'est pas ça, si tu.
Vas-y, Michel, ouais. Crache ta valda.
Bien m'épouser.
Mais oui, Michel, bien sûr.
Ok, on peut fêter ça, un petit Ricard.
C'est okay. Magnifique, n'est-ce pas? Le glamour a envahi le pays lorsque les deux tourtereaux se sont dit oui, vivons ensemble la sublime cérémonie de notre écrivain adoré.
Lysis, voulez-vous prendre Michel pour époux?
Oui, je le veux.
Michel, voulez-vous prendre Lysis pour épouse?
Ah, c'est ça. Ouais.
Enfin, Michel fait un effort.
Michel? Mais il dort?
Aïe! Aïe!
Ah oui, l'amour, c'est aussi des petits coups dans les tibias. Ça va, Michel?
Ça va, oui, oui. Oui.
Il a dit oui. Ouais. C'est bon, il a dit oui.
Oui.
Michel, vous avez dit oui?
Je veux bien une clope, oui, c'est one clope.
Non, pour le mariage.
Mariage de qui?
Oui, enfin, je veux dire. Moi, je vous déclare donc mari et femme.
Ouais, bah on peut fêter ça. Alors, un petit rouge, peut-être.
Beaucoup d'émotions. La fête a continué dans une soirée extraordinaire durant laquelle Carla Bruni est venue féliciter nos deux amoureux.
Est-ce que quelqu'un veut un Lexomil?
Quelle merveilleuse ambiance, et nous pouvons aller un peu plus loin dans l'intimité de notre couple en nous rendant au cœur de leur amour lors de la nuit de noces.
Michel, reviens dans la chambre. Tu ne peux pas rester en caleçon sur le balcon. Oh, Michel, toi, tu sais me parler.
Alex, il est l'heure d'amener celui qui fait grincer les cordes.
Oui, et alors, il a constaté, comme nous tous un petit peu, que les chasseurs avaient des petits problèmes de vue. Tendance à plus tirer les trains et les surfeurs que les gibiers. Et donc, il s'est dit, ça mérite une chanson, Frédéric Fromm.
Oh, que c'est joli! Je me suis trop approché d'un groupe d'alcooliques anonymes. Et je suis tombé sur un étrange lobby. C'est le lobby du fusil magique. J'ai rencontré des êtres pleins comme des barriques. Et voilà ce que j'ai appris. Les chasseurs sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme et surtout, ils ont une arme. Il faut pas en dire du mal, ils vous feraient un deuxième trou de balle. Hey, toi, quel est ton nom? Moi, je m'appelle le bourrin. L'autre jour, j'ai tué mon gamin. Ça m'a fait moins de chagrin que lorsque j'ai buté mon chien. Un truc à quatre pattes et bam, je pensais tirer sur ma femme. J'aime la nature comme un dingue. D'ailleurs, j'y traîne avec un flingue. Mais je suis le plus souvent assis, toujours à côté du cubi. Et quand ça bouge dans les fourrés, tant mieux si je zigouille mémé. Qui n'a pas une mémé qui ressemble à un sanglier, hein. Les chasseurs sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une famille, même si parfois ils l'éparpillent. Puis ils adorent les animaux, avec une bastose dans la peau. Hey, toi, quel est ton nom? Moi, je m'appelle Tourterelle, on me met du plomb dans l'aile. Si je pouvais aller aux urnes, on me casserait moins les burnes pour séduire les mauvaises gâchettes. À quand la chasse aux lance-roquettes? Je propose le permis à point, un chasseur mort vaut plus 1000 points. L'assassinat d'un garenne vous envoie direct à Fresnes. J'entends que les chasseurs nous régulent, j'aurais dit un autre mot en hule. Chasseur écolo, je ricane, à quand le chasseur vegan? Les chasseurs sont nos amis, il faut les aimer aussi. Faut pas croire que rien les touche, ils râlent quand ils gâchent une cartouche. Comme nous, ils sont humains, même quand ils saignent un petit lapin. Les chasseurs sont nos amis, il faut les aimer aussi. Même si de toutes les espèces, ce sont les plus grosses brutes épaisses. Jamais en danger d'extinction, c'est l'espèce du gros con.
C'est la fin de cette émission déjà, oh. Alex. Moi, j'ai l'impression que le temps avance encore plus vite cette année en 2019.
C'est pas faux.
Voilà. Alors demain, on va mêler culture et poilade.
Très bien.
Culture avec l'écrivain franco-ivoirien Gauze, mm-hmm. Et poilade avec la voix principale des Guignols, avec le grand Yves Lecoq.
Super, je reviens.
Ouais, moi aussi.
À demain.